Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par le docteur des psychés Corinne Valente et l'apprentie pharmacienne Lola Berthet, réalisée par l'alchimiste des sons Eliane Girard et mise en musique par la toubib auditive Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Michel Bézikian. Chers auditeurs, pardonnez-moi à l'avance, j'ai une semi-extinction de voix et donc je mue comme un adolescent timide. La gourmandise de ce matin porte le nom latin de caput mortum, tête morte. Il s'agit d'un pigment obtenu par calcination du sulfate de fer dont la couleur se situe entre le marron et le bordeaux, mêlé de violet. Son nom désigne en chimie le résidu dont on ne peut plus rien extraire. Aussi appelé rouge de Mars ou col cotard, le caput mortum est représenté chez les alchimistes par un cercle ponctué de trois points figurant presque le visage d'un cadavre ahuri qui serait l'ancêtre du symbole de la radioactivité. Artistes nés à Soissons, l'année où disparaissent Fred Astaire et Marguerite Yourcenar, notre apothicaire de l'âme grandit à la campagne, étudie le design graphique puis entre aux arts déco pour se former à la gravure et à la sérigraphie. Elle illustre ensuite plusieurs albums jeunesse, publie ses dessins dans la presse, montre son travail dans des expositions et façonne de jolis livrets d'art. À part le fait qu'il lui arrive aussi d'animer des ateliers en milieu scolaire, je n'en sais pas plus sur notre invité, je peux juste vous dire que chacun des ouvrages où apparaissent la fantaisie et la poésie de son graphisme est une réjouissance. Bonjour Amélie Fontaine.
Bonjour.
Première question. Vous vous doutez un peu de la question. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Moi, la mélancolie, je la vois comme un état assez doux, assez vague. En fait, ce serait plus comme une sorte de filtre qui viendrait se déposer sur les choses et qui les colorerait d'une manière particulière.
Filtre qui n'est pas déplaisant apparemment.
Oui, c'est vrai que c'est pas triste, ça reste doux, il fait bien chaud. Et je pense que au quotidien, je la refuse pas la mélancolie, ces phases de mélancolie qui peuvent arriver. Et comme je me sens souvent submergée par les choses, j'ai un peu ce fantasme des fois de m'enfermer chez moi comme une ermite et dans mon cocon, c'est comme un refuge en fait. Et de disparaître au monde.
Oui, ça fait penser aux gravures de Dürer, ce que vous racontez à Amélie Fontaine. Vous savez où il y a ces personnages, je pense à Mélancolia 1 ou je pense à Saint-Jérôme, ces personnages qui sont vraiment en retraite du monde. La mélancolie, on l'imagine souvent dans la solitude.
Oui, mais parce que en fait, je trouve ça difficile de parler de mélancolie dans notre société actuelle parce que elle est vraiment associée à quelque chose de négatif, limite mortifère en fait. C'est l'inaction, c'est la paresse, et dans une société qui est tout le temps en train de valoriser le faire et la production, l'efficacité, oui, c'est vraiment très mal vu. Et oui, le fait de s'enfermer et d'être seul, ça peut être compris de manière très négative. Alors que je pense que ces moments de blanc ou d'ennui, ils sont importants, ils sont nécessaires. C'est les moments où les choses elles retombent. Et on peut commencer à essayer de se poser des questions.
Vous dites, Amélie Fontaine, que vous êtes souvent submergée par les choses. C'est quelque chose dont vous souffrez ou ce sont vraiment des moments que vous avez apprivoisés et où vous êtes tranquillement en votre propre compagnie, ce qui n'est pas toujours évident, avec ces petits moments en retrait qui sont assez luxueux finalement dans un monde où tout va vite.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment ça. C'est cette idée d'avoir le luxe de ralentir les choses. Et quelle chance de pouvoir le faire. Je dirais pas que j'ai réussi à l'apprivoiser complètement parce que je pense que je suis une personne qui est très désorganisée. J'ai des gros soucis dans mon emploi du temps. Enfin, c'est toujours un casse-tête incroyable. Et je crois que cette idée de s'enfermer, c'est aussi pour échapper à tout ça, aux responsabilités, en fait.
Donc ce n'est pas quelque chose qui vous terrasse.
Ça ne me terrasse pas, non.
Bon, c'est déjà une bonne nouvelle.
Oui.
J'annonce le sommaire des réjouissances. Vous nous avez fait découvrir beaucoup de remèdes, Amélie Fontaine, et avec vous, on va parler dans quelques instants de Jacques Rosier, de fantômes, d'animaux marins, de chansons hantées. de Valentin Schlegel, de Richard Brautigan, Lucio Battisti, John Cage et d'une complainte triste qui fonctionne comme un vaccin, juste après le titre de Light de Metronymie. À la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Amélie Fontaine.
Tu as un endroit là où je pourrais planter ma tente?
Un endroit?
Tu n'aurais pas une chambre?
Ah non. Des chambres, juste trois.
Ou alors il n'y a pas une petite pièce, n'importe, pas forcément une chambre.
Hein. Non, mais tu sais, on ne peut pas toucher chez nous. Hein.
Ah oui, on est trois filles ici, maman ne voudrait jamais qu'on emmène un garçon.
On pourrait éventuellement te mettre dans un coin. Tu penses te mettre dans le jardin?
Ah oui, il y a le jardin.
Du côté d'Orouette de Jacques Rosier, film tourné en 69, sorti 4 ans plus tard en 73, c'est la première apparition au cinéma de Bernard Ménez qui fait un chef de bureau timide et maladroit. Et c'est un film où on a envie, Amélie Fontaine, de défendre Bernard Ménez contre trois harpies pendant tout le film.
Mais oui, le pauvre, j'ai l'impression que tout le film repose là-dessus.
Non, mais c'est épouvantable. Est-ce que vous pouvez ébaucher l'intrigue pour les auditeurs qui ne connaissent pas le film?
Donc en fait, c'est trois jeunes filles parisiennes qui partent en vacances sur la côte vendéenne En plus, il y a une ambiance très particulière parce que c'est hors saison, donc le temps n'est pas vraiment au rendez-vous. Et chaque jour, on suit vraiment leur quotidien, donc c'est les joies simples en fait. Et c'est une espèce de vaste fou rire. On a l'impression que ce film est très léger parce qu'elles passent leur temps à rire de tout et de rien.
Pendant 2h30, j'ai jamais vu des filles rire autant.
Oui, ce film est extrêmement long en plus. Et on vit complètement avec les acteurs et... À un moment, l'ennui quand même guette toujours. Hein. Et à un moment, Bernard Ménès, donc Gilbert dans le film, qui est un des chefs de bureau d'une des filles, débarque et carrément il s'incruste en fait. Et elle l'accueille un peu à contre-cœur et par ennui ou un peu par cruauté, elle décide d'en faire leur souffre-douleur. Donc le pauvre, il se fait complètement martyriser.
Et puis il a un béguin pour l'une des trois, tout le monde se moque de lui, il y a des anguilles partout, il y a une scène, la fameuse scène des anguilles dont vous parliez, Amélie Fontaine.
Cette scène elle est assez incroyable, en fait elles sont allées acheter des anguilles pour le dîner du soir et lui qui est toujours un peu lourdeau, il laisse tomber la bassine dans l'escalier et là toutes les anguilles s'échappent et c'est un espèce de concert de hurlements et de rires, enfin... Mais là où il est très fort, Rosier, c'est qu'il arrive à capter des moments assez infimes de cafard quand le soir est tombé, d'agacement. Et les sentiments sont toujours voilés, en fait, dans ce film.
C'est vrai qu'on voit les héroïnes parfois avoir un visage assez mélancolique pendant l'espace d'une minute. Puis ensuite, elles retournent à la légèreté, elles mangent des gâteaux, elles se mettent des pots de chambre sur la tête, des bigoudis, elles se plaignent. C'est comme si on avait mis des caméras cachées, finalement, dans une maison de vacances.
Oui, c'est exactement ça. On a l'impression que les acteurs, ils rentrent dans le champ, ils en sortent, mais ils font leur vie, en fait.
Le monstre tant redouté des profondeurs océaniques arbore, à la surprise générale, un manteau aux reflets métalliques. Les experts eux-mêmes ne s'y attendaient pas. Aucune découverte jusqu'alors ne laissait présager un tel éclat.
Il a fait un clin d'œil.
Un regard que personne n'oublie une fois qu'il l'a croisé. Ses yeux sont démesurément grands et ses nageoires très petites. Situées à l'extrémité postérieure du corps, ces ailettes triangulaires servent avant tout à la stabilisation.
Le documentaire Fantôme des grands fonds, le calamar géant diffusé en 2013 sur Arte, votre activité anti-spleen, Amélie Fontaine, consiste à regarder des documentaires sur les animaux marins et vous gardez, paraît-il, un souvenir ému de celui dont on vient d'entendre un extrait.
Ah oui, mais il est génial ce documentaire. Il est vraiment fantastique. En fait, c'est comme si on était dans Tintin et le secret de la licorne. C'est une expédition qui a été montée par des Japonais, je crois, c'est dans les années 2000. On n'avait pas encore d'image du calamar. Et donc, ils ont pour but d'aller filmer dans les profondeurs. Et donc, ils mettent en place des stratagèmes. Ils mettent une caméra sur des cachalots qui doivent descendre. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Et après, ils descendent dans une espèce d'engin qui est une sorte de bulle en verre. Enfin, et là, à l'aide d'un appât, ils arrivent à voir ce calamar qui est tout étincelant. Donc, enfin, c'est magnifique. J'adore.
Il y a un côté mystérieux et poétique aussi, puisque là, quand on les entend parler du calamar, on a l'impression, oui, que c'est autant un bijou qu'une créature fantastique.
Oui, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est pour ça que ça m'attire autant. C'est comme aussi les documentaires sur l'espace, quoi. C'est une exploration. Et c'est une exploration d'espaces infinis, sombres, dans lesquels il y a des choses sont cachées.
Amélie Fontaine, vous dessinez beaucoup d'animaux, surtout des mammifères. Est-ce que vous le faites d'après des modèles ou est-ce que vous les faites en imagination ?
J'ai une façon de travailler qui est souvent d'aller observer d'abord, parce que j'ai besoin de comprendre en fait comment sont faites les choses. Donc je fais des croquis d'après nature et souvent après je m'en sers comme base, une base pour partir vers l'imagination. Et là je peux m'en affranchir complètement, mais je trouve ça important pour moi d'avoir une base.
Vous dites, Amélie Fontaine, dans vos remèdes qu'il y a aussi le fait d'aller observer d'autres vies que la vôtre, et ça vaut aussi pour celle des animaux, j'imagine.
Oui, complètement.
Alors à quelles autres vies vous intéressez-vous et sous quelle forme ? C'est plutôt par la lecture, par exemple, par les livres, ou c'est plutôt visuel, les films, des photos ?
Je crois que c'est pour ça que le documentaire m'attire autant, parce que je trouve que je me pose constamment cette question de comment les gens vivent, en fait. Je trouve ça tellement mystérieux. J'aimerais pouvoir voir à l'intérieur des maisons comme ces plans en coupe ou ces maisons de poupées. Et je pense que cette question de comment vivre, c'est une question que tout le monde se pose. Et le documentaire, ça permet de justement d'aller voir d'autres chemins, d'autres façons de fonctionner. Et c'est très stimulant et rassurant aussi de voir qu'il y a d'autres possibilités.
Est-ce que vous observez les gens dans la rue ?
Ah oui, j'adore.
Vous faites des croquis d'après comme ça quand ils passent, de façon fugitive, dans le métro, un café ?
J'ai pu le faire à un moment, mais je le fais beaucoup moins maintenant. J'aime bien observer aussi les gens au musée. Je trouve que c'est un bon endroit pour observer.
Pourquoi ?
Parce que les gens sont dans un état où ils observent quelque chose, donc ils se rendent pas compte que eux sont observés.
Est-ce que vous arrivez facilement à vous absorber quand vous dessinez ? J'ai l'impression que quand on dessine, on ne peut pas être mélancolique.
Y a quand même un lien entre la mélancolie et le dessin, parce que je disais, y a cette idée de s'enfermer et de, en fait, comme en dessin, de se placer dans un état de concentration, en fait, de ralentir les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à trouver chaque jour, se placer dans cet état.
Mais il y a aussi, Amélie Fontaine, le fait que le dessin requiert de l'observation de l'extérieur, et la mélancolie, c'est quelque chose d'assez centré sur soi en général, et le dessin vous force à vous intéresser à autre chose qu'à vous-même.
Oui, c'est vrai. Bah, peut-être que c'est pour ça que j'ai choisi le dessin et que j'aime autant aller dessiner à l'extérieur. Après, il y a ces deux phases aussi. Il y a cette phase où on peut s'enfermer pour réfléchir, pour justement s'enfermer dans un espace intérieur. Et c'est une chance aussi de pouvoir prolonger cet état un peu comme d'enfance. Oui, je crois que c'est pour ça que j'aime énormément le dessin, pour pouvoir avoir cette occasion de rester dans cet état.
Amélie Fontaine, la chose à éviter à tout prix, à moins de se noyer délibérément dans le spleen, pour vous, ce sont les chansons hantées en japonais. La réponse était trop poétique pour ne pas faire entendre aux auditeurs le morceau que vous nous avez fait découvrir. Everybody, Anyone, interprété par Itsuro Shimoda en 1974 sur l'album Love Songs and Lamentations. Qu'est-ce que c'est une chanson hantée ?
J'ai l'impression, là, je ne comprends pas du tout ce qu'il me dit. Je n'ai pas cherché à traduire ou à faire traduire cette chanson. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très universel, en tout cas, dans cette tristesse qui transparaît. Et on sent un poids, en fait, qui est tangible, vraiment.
C'est ça pour vous, hanter ?
C'est ça pour moi, être hanté. Mais en fait, j'essaye de me dire qu'il ne faut pas trop croire aux fantômes, parce que je trouve ça important d'être dans le présent et de ne pas être... en fait, comment commencer quelque chose de nouveau si on est toujours à moitié dans le passé ? Mais les fantômes, c'est pas forcément un type caché derrière un drap. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire aussi.
C'est ce que je voulais vous poser comme question, Amélie Fontaine, puisque vous dites dans vos remèdes que vous vous efforcez d'essayer de ne pas croire aux fantômes. Et j'allais vous demander quel type de fantômes. Il y a les fantômes des défunts qu'on a connus. Il y a les types sous des draps. Ça peut être aussi des bonnes femmes d'ailleurs. Oui. Il y a aussi ceux des histoires d'épouvante, et il y a les souvenirs.
Exactement. Et justement, je repensais au film d'Api Chapung, ce réalisateur thaïlandais.
C'est cool, oui.
Oui, j'ai toujours un mal fou à prononcer son nom, mais j'adore son travail. Et J'aime beaucoup la façon dont il met en scène les fantômes dans son film, dans ses films, parce que souvent ils apparaissent comme ça tranquillement, enfin au cours d'un repas, et en plus ça surprend personne. Vraiment, ils sont pas du tout spectaculaires, et en même temps ils sont très rassurants. Et j'ai l'impression qu'ils viennent juste rappeler à la mémoire des vivants et peut-être parfois les guider, mais pas forcément.
Vous avez beaucoup de fantômes autour de vous, Amélie Fontaine ?
J'essaye de pas leur laisser trop de place.
Parfois ils vous parlent, ils sont bavards.
Oui, peut-être, mais justement, c'est pas désagréable non plus.
Ça fait une musique en sourdine qui n'est pas terrifiante, mais qui peut être mélancolique. La mélancolie du fantôme, on n'en parle pas assez.
Oui, c'est vrai.
Bon, on se retrouve pour parler de poésie et de MST, juste après un morceau de la playlist France Inter, Rouge, de la chanteuse Clou.
Des mots comme des claques, tout volera, c'est certain. Sans impact, pour moi ça ne sert à rien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. J'ai la rage pour être exact. Comme des crocs de chien, je suis à deux doigts du dictateur. Je fais le mal pour mon bien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Amélie Fontaine. Votre sérum littéraire, très amusant, c'est le recueil de poèmes de Richard Brautigan. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Et vous dites, Amélie Fontaine, il est capable d'écrire des poèmes sur son inquiétude pour ses plants de tomates, les MST et des poèmes d'amour bouleversants. Vous allez nous en lire peut-être un ou deux. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait parler du parcours vraiment remarquable de Richard Brautigan qui a été SDF et sauvé par l'écriture ?
Oui, c'est un personnage qui est assez marginal parce qu'il a côtoyé la Beat Generation et en même temps il avait un parcours tout particulier. déjà pour l'époque, il a voyagé énormément au Japon, donc il vivait entre le Montana et Tokyo.
Ouais, il a épousé une Japonaise.
Il a épousé une Japonaise et il a écrit un livre génial, Tokyo Montana Express, sur justement des nouvelles de cette époque. C'est vraiment fantastique ce recueil.
Il a grandi dans un milieu social défavorisé de la côte ouest et après avoir été SDF, il s'est dit « je veux absolument rejoindre les écrivains de la Beat Generation » et il l'a fait. Il l'a fait réellement. Il a eu du succès en tant qu'écrivain. Puis ensuite, le succès a commencé à se faire de plus en plus rare. Il est devenu alcoolique et il s'est suicidé.
Oui.
C'est un parcours bon.
Parcours terrible. Il a fini assez seul. Mais il y a une tristesse qui transparaît dans tout ce qu'il a écrit. Et en même temps, elle est complètement transfigurée, je trouve, par son écriture.
Oui, et par la fantaisie. Oui, voilà. On dirait qu'il est un peu stone quand il écrit, parce que tout est absurde, fantaisiste, inattendu.
Ouais, mais c'est très imagé. C'est peut-être pour ça aussi que ça me plaît énormément. C'est très très imagé. C'est un vocabulaire qui est très simple et en même temps, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression que derrière chaque mot, il y a beaucoup de choses qui sont cachées.
Il y a par exemple des titres farfelus comme Saute-moi comme des pommes frites.
Ouais, j'adore celui-là.
Ou un poème très très court, 9 corbeaux, 2 dans le désordre. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9.
Il est génial aussi.
Vous nous avez fait une petite sélection, Amélie Fontaine, on vous écoute.
Celui-là s'appelle « Mince, tu es si belle qu'il se met à pleuvoir ». Ô Marcia, je veux que ta longue beauté blonde soit enseignée au lycée, pour que les gosses apprennent que Dieu vit comme une musique dans la peau et résonne comme un clavecin solaire. Je veux que les carnets de notes ressemblent à ça. Jeu avec de délicates choses en vert, 20 sur 20. Magie du calcul, 20 sur 20. Rédaction de lettres à ceux que vous aimez, 20 sur 20. Se renseigner sur les poissons, 20 sur 20. Longue beauté blonde de Marcia, 21 sur 20.
Un autre. Le fantôme de Richard Brautigan est en vous, Amélie Fontaine.
Justement, pour rester dans les fantômes, celui-là s'appelle Immobilier. J'ai des émotions qui sont comme des journaux qui se lisent eux-mêmes. Je passe des jours entiers piégé dans la rubrique des petites annonces. J'ai l'impression d'être une annonce pour la vente d'une maison hantée. 18 pièces, 37 000 $, je suis à vous, fantôme et tout.
À Burlington, dans le Vermont, a été créée une bibliothèque Brautigan dont la particularité est de ne posséder que des manuscrits refusés par les éditeurs.
C'est vrai, je ne savais pas. Ça donne très très envie d'y aller.
Oui. Et ils ont créé un système de classification appelé mayonnaise, puisque c'est le dernier mot de La pêche à la truite en Amérique, qui est un des livres les plus connus de Brautigan, où c'est classé en fait par thème comme le futur, l'aventure, l'amour et tout le reste.
Génial.
Amélie Fontaine, vous aviez hésité à nous parler d'un autre ouvrage, qui est Une année à la campagne de Sue Hubble, qui est biologiste de formation.
Oui, je me suis un peu trompée, en fait c'est son père qui est biologiste, mais elle a baigné dans cet univers, et elle était bibliothécaire, et dans les années 70, elle décide de tout quitter avec son mari pour devenir apicultrice dans les Ozarks. Alors c'est une région très belle aux États-Unis et très reculée, et donc quelques années après, son mari l'a quittée, elle vit seule avec ses abeilles, et elle écrit son quotidien au fil des saisons. Et ça pourrait être très mélancolique vu la situation, mais c'est magnifique en fait. Elle parle de toute cette nature qu'elle apprend à comprendre. Elle est capable d'écrire des chapitres sur les chauves-souris qui sont mais magnifiques. Enfin, j'aime énormément ce livre.
J'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je n'ai jamais pu penser que je sacrifierais ma vie à mettre au monde des gens qui sacrifieront leur vie pour mettre au monde des gens qui sacrifieront leur vie. De toute façon, je voulais choisir une vie de création artistique. Ça, alors, ça remonte à beaucoup plus tôt. C'est 6 ans. 6 ans, 7 ans.
L'artiste céramiste Valentine Schlegel sur France Culture en 1975. Artiste que vous avez découverte, Amélie Fontaine, grâce à un livre d'Hélène Bertin intitulé « Je dors, je travaille ».
Oui. C'est une amie qui m'en a parlé. Et d'ailleurs, il y a un entretien super dans la revue Collection, qui est une très bonne revue. Et déjà, le titre est magnifique, « Je dors, je travaille ».
Ça vient de deux petites pancartes que, justement, plaçait Valentine Schlegel sur son atelier.
Sur la porte de son atelier, oui. Donc, suivant son humeur, elle pouvait changer l'emplacement. Et en fait, Valentine Schlegel, on n'a pas beaucoup parlé d'elle, elle n'a pas beaucoup été mise en avant, peut-être parce que une femme homosexuelle, elle est née en 1925, elle vivait entre Paris et Sète et elle a réalisé des cheminées en plâtre. Et à l'origine, elle était céramiste, donc elle avait réalisé de nombreuses céramiques et s'était rendu compte qu'elle n'avait pas de support pour les montrer. Donc elle s'est mise à construire des cheminées en plâtre et elle a eu même des commandes particulières. Et au final, on en dénombre une bonne centaine. Et ce que j'adore dans son travail, c'est que c'est extrêmement ancré dans la vie, en fait. Parce que tout son travail contamine même sa maison, chaque objet, elle l'avait fabriqué elle-même. C'est extrêmement sincère et ça respire vraiment la liberté. C'est très modeste aussi comme art.
Oui, bah justement, en 78, elle écrit « Je n'ai pas essayé de faire une œuvre, il fallait vivre et survivre avec ce que j'étais, un corps solide, une œuvre liée au corps, l'utilitaire, j'aime le quotidien exceptionnel, je pars du geste. » Et c'est vrai qu'elle peut autant faire des sifflets en forme de sirène que des couverts en bois et puis ces cheminées en plâtre que vous évoquiez, Amélie Fontaine.
Oui, et puis il y a une dimension vraiment très... affective dans son travail, parce que déjà les cheminées, je pense que c'est pas anodin. La cheminée, c'est le foyer, c'est le centre de la maison. Et ces petites figurines, ces petits sifflets, elle les offrait à ses amis. Elle avait vraiment cette chose du partage. Elle invitait beaucoup ses amis pour partager des connaissances. Ils faisaient des espèces de petites séances où justement ils partageaient ce qu'ils savaient faire, le savoir-faire du cuir ou de...
On parle à l'imparfait, mais c'est sans doute encore d'actualité. Enfin, c'est ce qu'on espère. On parle à l'imparfait, puisque là, on se base sur le livre, justement, qui l'a fait connaître, Je dors, je travaille, la monographie de référence qui est parue en 2017 aux presses du Réel. Mais qui sait ce qu'elle fait? Peut-être est-elle entourée de fantômes? Nous ne savons pas, Amélie Fontaine. Mais c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur, cette femme.
Oui, moi j'apprécie énormément. Et cet engagement aussi qu'elle a dans sa vie et dans son art, que je trouve vraiment très beau.
Je dors, je travaille, Hélène Bertin, sur Valentine Schlegel. Alors Amélie Fontaine, ce n'était pas prévu, mais hors antenne, vous m'avez confié un amour qu'on partage pour les films d'horreur. Et je voudrais que vous en parliez, puisque personne n'a jamais choisi de film d'horreur dans l'émission. Je trouve que c'est un excellent remède à la mélancolie, puisque quand on est terrorisé, on ne peut pas être mélancolique.
Mais oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a quelque chose de cathartique, en fait, d'éprouver des sentiments aussi forts... Et complètement détaché de sa propre douleur, en fait, c'est le remède parfait, je pense.
Vous en regardez souvent ?
J'ai beaucoup de mal à en regarder parce que ça me terrorise. Il ne faut pas que je sois toute seule, mais j'en ai vraiment des préférés. Et par exemple, je pensais à Suspiria de Dario Argento, qui est vraiment magnifique.
Et ça ne m'étonne pas, puisque venant d'une artiste, oui, c'est des images d'une esthétique sublime. Avec ce rouge, ce bleu.
Oui, il y a quelque chose avec la lumière. Il y a des lumières très violentes. Et tout le décor de ce film, qui est une école de danse en Suisse, est parfait. Enfin, c'est les couleurs, les murs sont rouge sang. C'est une architecture très baroque. Et il y a des scènes dans un dortoir qui est entouré de draps tendus, derrière lesquels se déploient des ombres, qui est absolument terrifiante. Mais magnifique.
Quel genre de films d'horreur affectionnez-vous ? Est-ce que c'est plutôt les films de fantômes, les films de possession, les films de torture psychologique, les films gore ? Il y a tellement de genres différents.
Je pense quand même que j'aime bien les films de fantômes, et c'est pour ça que les giallo, ça me plaît assez. Toujours ces histoires de...
Les giallo, c'est un peu comme les pulps.
Oui, voilà.
En Italie.
Oui. Bah, Bava aussi, c'est génial.
Mario Bava.
Oui.
Mais c'est terrifiant.
C'est terrifiant.
Il y en a un qui se passe dans un cinéma... Et tous les gens qui sont dans la salle de cinéma, quand ils se rendent aux toilettes, sont possédés par des monstres et se transforment en démons. Et c'est...
Je vais plus jamais oser aller au cinéma.
Non, ni aux toilettes. Donc c'est malgré tout, oui, des films très esthétiques, mais c'est vrai qu'il y a une grande recherche esthétique dans les films d'horreur.
Oui, mais je trouve que c'est quelque chose qui a été moins exploité ces derniers temps. Ou alors, enfin, peut-être, j'arrive plus trop à... J'ai une culture assez datée du film d'horreur et j'ai l'impression que je suis plus sensible au film des années 70 où il y avait toute cette recherche, justement, aussi esthétique derrière.
Longeons, nous étions à Sète avec Valentine Schlegel il y a quelques instants, longeons la côte de Sète à l'Italie avec votre premier antidote musical. We'll be right back.
ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io. E non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere? Nessuna no. Solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile. No, lasciarti non è possibile. Lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.
À la mélancolie sur France Inter avec Amélie Fontaine qui vient de nous faire entendre un remède musical de 76, Ancora tu de Lucio Battisti. Je ne sais pas si vous avez vu le clip, mais il court de joie dans des flaques. C'est très inspirant.
Oui, j'adore. Ça va vraiment bien avec cette chanson.
C'est pour les paroles que vous l'avez choisie, cette chanson.
Oui, notamment. J'adore la mélodie hein, aussi, mais les paroles, je les trouve fantastiques. C'est bon, je parle pas italien, mais c'est deux anciens amants qui se retrouvent par hasard et on sent que la page n'est pas complètement tournée. Et donc c'est un mélange de d'amour nostalgique et à moitié absurde en même temps, parce que Je me souviens de « As-tu mangé ? J'ai aussi faim, mais pas seulement de toi. » Ou alors « Comme tu es belle, tu sembles plus jeune ou peut-être es-tu seulement plus sympathique. »
Oui, ça c'est merveilleux. C'est ça vraiment, c'est la chose à dire quand on rencontre un ancien amour.
Exactement.
Et puis plus tard, il revient à la charge. En plus, il dit « Non mais t'as déjà mangé ou pas ? Parce que j'ai vraiment faim. »
Oui, ça revient beaucoup. C'est assez curieux.
Alors, vos autres choix, Amélie Fontaine, c'est une complainte si triste qu'elle vous remonte le moral.
Cette musique mélancolique, cette musique, je l'envoie par le vent du soir à celle que j'aimerais revoir.
Sansa Tristesse du Camerounais et ancien journaliste de RFI, Francis Bébé, sur l'album psychédélique Sansa. La Sansa, c'est une sorte de petit xylophone aussi appelé piano à pouce. Pourquoi ce morceau ? Enfin, je me doute un peu de la réponse à Amélie Fontaine, mais...
C'est l'esprit de contradiction. En fait, c'est des paroles qui sont très simples et pour le moins explicites. Mon cœur est triste, ma vie est triste. Enfin, c'est presque trop, en fait.
Et le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti avec
voilà,
lui.
Pour aller vraiment jusqu'au bout. Et en même temps, il y a cette mélodie qui est assez magique, qui tient pour beaucoup à la Sansa, comme vous disiez, et qui crée une ambiance qui est très particulière. J'ai l'impression qu'on est comme dans la forêt au crépuscule. C'est assez entraînant. Et j'aime bien aussi ce décalage qu'il peut y avoir entre les paroles extrêmement tristes et cette musique, ce rythme.
Qui est assez envoûtant.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Toute ma vie, j'ai évité l'harmonie. Mais maintenant, je trouve que l'harmonie existe partout. N'importe quel son, ils sont harmonieux. Ils ne sont pas toujours suivant les règles d'harmonie. Mais on peut penser d'une harmonie anarchiste, qui n'ont pas des règles. C'est ça, je crois, qui m'intéresse maintenant.
Le compositeur américain John Cage sur France Musique en 92, soit l'année de sa mort. Amélie Fontaine, vous avez choisi pour l'émission l'une de ses citations qu'il aurait peut-être piqué à Lao Tzu. On la trouve dans le journal de John Cage intitulé « Comment rendre le monde meilleur ? On ne fait qu'aggraver les choses ». Et la phrase, c'est « La situation étant désespérée, tout est maintenant possible ». C'est presque un soulagement, finalement, d'atteindre enfin ce point, cet apogée de désespoir.
Oui, parce que c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air complètement désespérant et déprimant, cette citation. Mais moi, elle me réconforte, parce que c'est comme quand on veut trop réussir, en fait. Il y a ce moment où on a la sensation d'avoir raté et c'est une libération, il y a une pression qui s'en va. Et là, enfin, on est libre. Et donc, c'est comme... Enfin, ça résonne aussi avec cette époque qu'on vit qui est assez désespérante, je trouve, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître et que peut-être ça va être une porte vers d'autres choses et il y a peut-être d'autres chemins à prendre. Et
quelles choses vont disparaître selon vous, Amélie Fontaine ?
Bah, d'un point de vue très concret, là c'est plutôt oui les animaux, ces forêts qui brûlent, enfin c'est un contexte assez apocalyptique. Mmh. Et la tentation est grande quand on voit ça, de creuser un trou, de se mettre dedans et d'attendre la mort, mais
dans en fait, une pièce de Beckett.
Exactement. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas ce moment où on arrivait à un point critique où il va pas falloir trouver des nouvelles solutions et être créatif, ou au moins essayer.
C'est vrai que c'est à la fois tragique comme constat et une fois qu'on l'accepte. Mais arrive-t-on jamais à l'accepter ? Une fois qu'on l'accepte, on se dit bon bah voilà. Il n'y a plus à l'éviter, maintenant il y a à faire avec ça.
Oui.
Avec, pour la première fois, par l'environnement et par le nucléaire, la possible disparition totale du monde.
Oui, c'est...
Et l'humanité.
C'est très difficile à envisager. Et en même temps, ça replace aussi l'homme dans un autre contexte. Et c'est comme comme regarder ces documentaires sur les animaux marins, en fait. Moi, ça me replace l'homme dans un autre contexte qui n'est pas au centre. Et je trouve ça très rassurant de se dire que l'homme n'est pas le centre du monde.
Il vous arrive, Amélie Fontaine, quand vous n'êtes pas dans le centre du monde, de vous trouver sur des aires d'autoroute. Et dans ces cas-là, vous appréciez, et j'ai du mal à vous croire, vous allez m'expliquer ça, les stations-service, la lumière violente, l'affreux café, les Pimms à l'orange, bon là je vous rejoins, et les sandwichs triangles immangeables, c'est le bonheur, c'est aussi la promesse d'aller quelque part.
En vérité, oui, c'est des endroits qui sont absolument affreux, hein, les aires d'autoroute et les stations-service. Et en même temps, j'aime beaucoup ce genre d'endroit parce que je sais que je vais quelque part quand j'y suis. En fait, ça me fait le même effet quand je suis dans une gare. C'est cette idée de mouvement qui est très plaisante, de se dire parfois, en fait, c'est le chemin qui est plus important que le but à atteindre. Et bon, je pense que c'est une station-service n'est supportable que parce qu'on y reste que peu de temps.
Avec des Pimms à l'orange.
En fait, je déteste les Pimms.
C'est vrai.
Ah,
ça, c'est un scoop. Là, on termine par un scoop dans Remède à la mélancolie. Et Amélie Fontaine, sur le site internet, car on n'a plus le temps, hélas, de s'y attarder, les auditeurs pourront retrouver votre bonus de montagne à nom de Dieu. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs vers vos publications à retrouver sur votre site internet ameliefontaine.fr. Je signale par esprit d'équipe que vous avez illustré chez Actes Sud Junior la série de reportages de notre consoeur Caroline Gillet intitulée I Like Europe, et aussi, par esprit canin, que vous avez réalisé les irrésistibles illustrations du chien cornet écrit par Gwenaëlle David aux éditions Helium, ainsi que celle du bel album Les Voyages Parfumés écrit par Dimitri Delmas et paru chez Actes Sud Junior. Ce sont mes deux préférés car je suis un chien cosmopolite. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission. Nous sommes parfois sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi ébaudi qu'un kangourou, suffisamment renseigné sur la perplexité des haricots. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.